simplement, bon, je suis sûr que Dieu fera quelque chose, car il t'aime. Puis si quelqu'un vous dit une énormité, ça arrive, hein, souvent même, il y a toujours la réponse du parcours alpha, vous savez. Vous dites, ah, c'est très intéressant, j'y avais jamais pensé. On n'est pas là pour convaincre ni pour argumenter. Alors je me rappelle, quand j'étais étudiant, c'était relativement facile, je trouvais. Et j'ai pu témoigner à nombreux étudiants. Et j'aimais beaucoup ça. C'est une période de la vie où c'est facile, hein, on est très ouvert, on aime discuter, on recherche un peu tout ça. Et puis c'est une période aussi où on sème avec facilité. Et comme vous savez qu'on récolte ce qu'on sème, ben j'ai eu la grâce et le plaisir de voir plusieurs étudiants, étudiantes de mon entourage, rencontrer Jésus et s'engager avec lui. Et puis il y en a d'autres, non. Voilà. Mais ce qui est semé, c'est semé. Et un jour, ça poussera. Bon, jusque-là, je ne vous apprends rien de nouveau. Hein. On récolte ce qu'on sème. Donc, pour récolter, il faut semer. Et puis souvent, on récolte ce qu'on n'a pas semé. Il y en a d'autres qui ont semé, puis c'est nous qui récoltons. Et ce que nous semons, c'est d'autres qui vont le récolter. Voilà. Et ce qui est semé, un jour, ça poussera. Ça, c'est certain. Alors, vous savez que je ne suis plus étudiant depuis quelques mois, ou non, quelques années. Ça fait même 20 ans ou plus. Et donc, j'ai traversé depuis plusieurs périodes de la vie. Et depuis, je travaille. Et comme vous le savez tous, témoigner au travail, c'est un petit peu moins facile. Mais ce n'est pas impossible. Il faut prendre quelques précautions et avoir davantage de sagesse, de perspicacité. Par exemple, c'est mieux d'éviter de le faire pendant les heures de travail. Hein, parce que notre patron ne nous paye pas pour ça. Mais pourquoi pas? Il y a des pauses, et puis on peut se voir en dehors. Hein. Et puis la deuxième chose qu'il faut faire attention au travail, c'est qu'on y est pour la durée. Donc il faut faire attention aux intrigues, aux médisances, aux rumeurs. Bon, je crois que comprendre les relations au travail, c'est un travail en soi. Alors je me suis rendu compte avec stupeur il y a quelques années que je ne témoignais plus du tout. Mais alors, plus du tout. Ça m'a fait un choc et ça m'a fortement attristé. Je me suis dit, mais ma foi, est-ce qu'elle ne deviendrait pas fade? Ou juste une foi un peu sous une vitrine, inefficace? Est-ce que je ne deviens pas inutile pour le royaume? Est-ce que je suis en train de devenir du sel, vous savez, le fameux sel, celui qui n'a plus de saveur et qu'on rejette et qui est bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds? Est-ce que je deviens paresseux? Alors j'ai décidé de me reprendre en main. Un jour, j'ai entendu une très bonne prédication sur le fait de prier pour les non-croyants de mon entourage. Et alors, je me suis mis à prier pour les non-croyants de mon entourage. J'ai choisi deux collègues de travail et deux collègues avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai du plaisir à me retrouver à discuter, et je me suis mis à prier pour eux régulièrement. Chaque semaine, le lundi matin, j'ai prié pour eux, pour qu'ils soient bénis, pour qu'ils se tournent vers Dieu, pour que Dieu se fasse connaître à eux, pour qu'éventuellement je sois un instrument dans tout ça. Au bout d'un ou deux mois, je me suis rendu compte que rien n'avait bougé. Mais c'est pas grave, j'ai continué. 3 mois, 6 mois, 1 an... J'ai prié pour eux chaque lundi matin. Rien. Alors, qu'auriez-vous fait à ma place? Ben moi, j'ai continué. Voilà. Et je continue toujours. Un petit peu moins régulièrement, mais c'est pas grave. Peu importe. Et toujours rien. Ben, c'est pas grave. Un jour, ça va pousser. Bon, je suis un peu perplexe, un peu déçu. Je me pose des questions. Vous imaginez bien, hein? Je me dis, est-ce que j'ai choisi le bon cheval? Est-ce que je change de cible? Voilà. Puis ça ne m'a pas empêché de commencer à prier pour d'autres. Voilà mon premier témoignage. J'en ai un deuxième que je vous raconterai un petit peu après. Mais avant ça, je vous propose de lire deux passages dans l'évangile de Matthieu qui sont à propos de ce sujet. Alors, vous allez être un peu choqués parce que ces deux passages, ils parlent de quelque chose dont on n'aime pas parler dans l'Église. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé dans l'Église, mais ça, c'est l'argent. Voilà, il se trouve que Jésus parlait beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il avait toujours ça à la bouche. Et il parle toujours de grosses quantités d'argent. Alors vous savez, à cette époque, il n'y avait pas la sécurité sociale, et les salaires ne tombaient pas tous les mois, mais on était payé à la journée. Hein, vous voyez à quelle parabole je nous oriente progressivement. Et donc vous la connaissez, donc le salaire se payait à la journée, à la fin de journée de travail, on récupérait son salaire. Donc un riche propriétaire, alors on ne va pas le dire parce que vous connaissez l'histoire par cœur, hein, c'est dans Matthieu 20, un riche propriétaire engage très tôt le matin des ouvriers agricoles pour aller travailler dans sa vigne. Il leur promet un denier. Alors le denier, c'était une petite pièce d'argent, ça correspondait au salaire d'une journée. Alors suivant les traductions, vous avez un denier, vous allez trouver autre chose, vous allez trouver le sicle, et puis la drachme. Hein, c'est la même pièce d'argent dans les trois langues de l'époque, c'est-à-dire le latin, le grec ou l'hébreu. Donc le matin, très tôt, 6 heures du matin, le riche propriétaire va sur la place du village, il embauche les gens qu'il trouve. Et ils vont travailler, il leur dit « Travaillez pour moi aujourd'hui, vous aurez une pièce d'argent à la fin de la journée, le salaire normal. » Ils y vont. Et puis vers 9h, le riche propriétaire retourne en ville et il récupère encore des gens qui traînaient là, qui ne savaient pas quoi faire. « Allez, allez travailler à ma vigne. » Et fait ça tout au long de la journée. Et à cette époque-là, il travaillait 12 heures par jour. Donc à 5h du soir, le riche propriétaire retourne en ville et il trouve encore des gens qui n'avaient rien fait de la journée et il leur dit « Vous voulez pas venir travailler à ma vigne ?» Ils y vont, pour une heure. On peut bien y aller quand même. Et à la fin de la journée, donc, il paye les ouvriers. Et il les appelle tous dans l'ordre du celui qui a commencé à travailler le dernier jusqu'à celui qui a commencé à travailler tôt. Et chacun reçoit une pièce d'argent, un denier. Alors, à la fin de la paye, donc, les ouvriers qui ont commencé tôt le matin et qui ont sué toute la journée reçoivent un denier. Et ils ne sont pas vraiment contents. Ils se mettent à couiner. Ils font des reproches au riche propriétaire qui leur répond « Mais je vous ai donné ce que je vous avais promis. Vous me reprochez d'être généreux avec ceux qui sont arrivés plus tard. Je suis riche et généreux et je fais ce qui semble bon de mon argent. » Alors l'argent, souvent dans les paraboles, représente ou symbolise le salut offert par Jésus. Le riche propriétaire, vous vous en doutez, il désigne certainement Dieu, qui est représenté comme un homme riche et généreux qui offre à tous ses ouvriers le même salaire, le même salut. Alors est-ce que cette histoire, elle ne parle pas un peu de nous? Est-ce que certains d'entre nous ne sont pas un peu du genre à couiner contre Dieu, qui offre son salut généreusement, même à ceux qui arrivent à la fin? Nous, on est là depuis le début. Alors c'est un peu poil à gratter, mais bon, ce n'est pas l'enseignement principal de cette parabole. On pourrait dire, la première chose, c'est que la parabole, elle nous dit qu'à n'importe quelle période de ta vie, si tu rencontres Dieu, tu peux t'engager avec lui, même si tu es au soir de ta vie. La deuxième chose, le deuxième enseignement de cette parabole, c'est que si déjà la majorité est déjà en train de travailler pour Dieu, et que toi, pour le moment, tu ne fais rien, eh ben tu peux te joindre au travail. Tu as accepté aussi. Peu importe s'il y en a qui ont déjà commencé depuis longtemps, peu importe si toi, jusqu'à présent, tu n'as rien fait, mais tu peux t'y mettre. Il y a de la place pour toi. Tu peux faire partie des ouvriers. Alors, on passe à la deuxième histoire. Là, on va monter d'un cran. On ne parle plus du salaire d'une journée de travail, mais du salaire de 10 000 journées de travail. Il y avait une unité d'argent à cette époque-là qui valait 10 000 journées de travail. Alors il y avait donc le denier, la drachme ou le sicle, une journée de travail. Au-dessus, il y avait la mine, 100 journées de travail. Et tout en haut, il y avait le talent qui valait 10 000 journées de travail. Alors en grec, le talent, c'est talenton. Ça, c'est bon. On n'a rien inventé, hein, en français, on a gardé le même mot. Et alors il faut savoir que par exemple, un talent d'argent, ça pesait 45 kilos. Pff, vous voyez, c'était une grosse somme. Quoi. J'ai fait le calcul, 10 000 journées de salaire, ça fait 30 ans de salaire. Vous imaginez le pactole, quoi, le gros lot. Alors dans nos traductions, on trouve le mot talent. Donc ça, c'est un mot qui prête à confusion parce que nous, dans notre français à nous, le mot talent, c'est plutôt la France a un incroyable talent, hein, qu'une grosse somme d'argent, hein, donc ça pose un problème. On mélange un peu les trucs. Mais dans d'autres traductions, les traductions qui sont plus proches de la langue d'aujourd'hui, hein, on trouve sac d'argent dans Second 21. Dans la Bible Sommer, on trouve le mot lingot. Et dans la parole de vie, celle qu'on lira après, le talent est traduit par 100 pièces d'or. Donc là, on voit bien on a bien l'image, hein, une grosse somme d'argent. C'est une somme considérable. Alors l'histoire, elle se passe chez les riches, chez les milliardaires, chez Rothschild, Crésus ou Bettencourt de l'époque. Alors je crois que cette image, elle va passer difficilement. Jésus, il ne sait pas s'y prendre avec les Français. Hein, parce que la France, on aime l'argent, mais on n'aime pas ceux qui en ont. Alors, on n'aime pas les millionnaires, mais pourtant, c'est l'histoire que raconte Jésus. Et on va la lire donc dans Matthieu 25. Rappelez-vous que l'argent symbolise le salut. Le talent de Tom, c'est une somme énorme qu'aucun homme ne pouvait accumuler et gagner par lui-même. C'est bien l'image du salut. Alors, Matthieu 25, 14. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Alors, je lis dans la version Parole de vie. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à l'autre 200 et au troisième 100. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. Donc ça fait 1000. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose, il gagne 200 pièces d'or. Et celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Alors on apprend deux choses sur l'homme qui part en voyage. D'abord, il était très riche, hein, 800 pièces d'or. Qui aimerait avoir 800 pièces d'or ce matin? Et la deuxième chose qu'on apprend, c'est qu'il était assez sage, il était avisé et il tenait à son argent. Il a réparti l'argent à ses serviteurs selon leur capacité personnelle. Fallait y penser, hein. Bon, les trois n'ont pas eu la même chose, mais tous ont reçu une somme considérable. Et vous, qu'auriez-vous fait si vous aviez reçu 100 pièces d'or? Alors, que font les trois serviteurs? Les deux premiers, ce sont des excellents traders, des golden boys de la bourse, du Nasdaq, de je sais pas quoi, de la City. C'est la banque Rothschild. C'est toutes les banques. Ils font du commerce, ils investissent, ils prennent des risques, ils investissent sur les marchés. Alors il y en a peut-être un qui s'appelait Jérôme Kerviel, je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, c'est le jackpot. Ça fructifie. Ils sont vraiment bons, ils sont doués. À la fin de l'histoire, ils ont obtenu 100% de rendement. Vous connaissez un placement aujourd'hui qui remporte 100%? Moi, j'aimerais bien le connaître. Hein. Parce que le livret A, c'est 1%. Même pas, je crois, c'est en dessous, 0,75. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc les deux premiers, ils sont au top. Ils sont vraiment dans la mission qu'on leur a confiée. Et le troisième, il est plutôt prudent. Il ne prend pas de risque. Bon, on va se confier une grosse somme. Il faut que je fasse attention. Il veut pouvoir tout restituer au milliardaire. Parce qu'investir, c'est bien, mais on peut tout perdre. Et il se dit, mais s'il revient que j'ai tout perdu... Alors vous connaissez la suite de l'histoire. Hein, le maître de ses serviteurs revient et il leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait de son argent. Normal. Donc le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or, voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. » Ben oui, tu as bien fait le job, quoi. Hein, tu as été fidèle pour une petite chose, je vais t'en confier des plus grandes. » Pareil pour le deuxième serviteur, celui qui avait les 200 pièces d'or. Je ne vous le relis pas, vous connaissez. Et celui qui a reçu les 100 pièces d'or, il dit « Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé, tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher les pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as tout ton argent. » Et son maître lui répond « Mais tu es un serviteur mauvais, paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé. » Donc il reprend sa petite description du maître. « Tu aurais pu au moins mettre mon argent à la banque. De cette façon, j'aurais pu reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui les 100 pièces d'or et donnez-les ceux à qui a déjà les 1000 pièces d'or. Celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, et il aura encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. » Pas très sympa. Hein. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera, il grincera des dents. C'est une histoire de Jésus. Voilà. Donc, il y a un milliardaire qui félicite les deux traders car ils lui ont fait confiance. Et ces deux-là ont reçu la confiance qui leur avait été faite. C'est la première idée que Jésus veut nous faire savoir. Dieu nous fait confiance. Dieu te fait confiance. La deuxième chose, c'est qu'il félicite ses serviteurs. Tu as fait fructifier ce que je t'ai donné. Bravo. Tu as été fidèle à ta mission, à ton travail de trader, de golden boy. Alors vous remarquez qu'il ne s'intéresse pas tellement à la quantité. Il ne s'intéresse pas au résultat de savoir s'ils ont obtenu un rendement de 100%, de 90%, de 210%. Non, là où il les félicite, c'est qu'ils ont fait leur job. Ils ont pris des risques. Ils ont tenté des choses. Alors, on imagine que le milliardaire, là, il représente Dieu. Et il invite les deux serviteurs qui ont pris des risques, qui ont fait des choses pour se réjouir avec lui et célébrer leur fidélité. Dans l'histoire, elle se répète mot pour mot. Bon, je ne l'ai pas lu parce que vous connaissez ça. Et ça marque vraiment l'insistance sur la conduite que nous devons avoir. C'est l'histoire de notre salut. Dieu s'attend à ce que notre salut fructifie. Ce n'est pas le résultat qui va compter, mais notre démarche, nos intentions, notre état d'esprit. Est-ce que je prends des risques? Est-ce que j'essaie quelque chose? Est-ce que je fais quelque chose? Ou alors je reste le bras croisé comme le troisième? Il n'a rien tenté. Rien essayé, pris aucun risque. Il n'a pas fait le job. Il n'a pas été fidèle à la confiance qui lui a été faite. Au pire, il aurait pu tout mettre sur le livret A. Ça aurait rapporté 1%. Il n'aurait rien fait de plus. C'est pour ça que le patron lui dit « Mais t'es paresseux, t'as pas bossé. » Alors la parabole, c'est un peu caricatural. Ça grossit le trait pour nous remuer. Mais bon, on voit bien le système. Le milliardaire, il met le serviteur dehors, il est reconduit à la porte, direction Pôle emploi. Il ne va plus bosser pour son patron. Avec Dieu, c'est différent. On a le droit à une deuxième chance. C'est la première parabole qu'on a vue. Les autres sont déjà partis travailler. Tu peux rejoindre les ouvriers. Et je crois qu'avec Dieu, on a même une troisième chance et une quatrième. Alors je regarde la pendule qui travaille contre moi. Alors voilà le témoignage dont je vous avais promis qui s'intitule « Faire du sport, une occasion très facile d'évangéliser ». Alors je vais à la piscine régulièrement le week-end, le samedi ou le dimanche, et c'est très agréable parce qu'il y a très peu de monde. On a la piscine presque pour soi. Et comme il y a peu de monde, même sans mes lunettes, j'arrive à reconnaître les gens, d'une fois sur l'autre. Et au mois de juin dernier, je remarque deux personnes nouvelles que je n'avais pas remarquées avant. Il y avait un monsieur handicapé qui marchait avec des béquilles, facile à repérer, et un jeune homme avec une allure un peu figée, puis il s'est trouvé qu'on s'est rencontrés, on a discuté. Alors il m'explique qu'il a eu un accident, que sa colonne vertébrale est très abîmée, il est revenu à Nîmes pour se soigner, et il est obligé de faire du sport tous les jours pour la rééducation. Alors de semaine en semaine, on se revoit, on se parle, bonjour, bonsoir, quoi, voilà. Et puis de mon côté, je suis interpellé, et puis rempli de sympathie, voire même de compassion, pour cet homme qui est courageux. Sa santé est abîmée, bon, et de faire du sport tous les jours, pour se soigner, vous vous rendez compte? Et au bout de quelques semaines, je prends mon courage à deux mains. Je lui parle de Jésus, je lui dis qu'il aime, qu'il a le pouvoir de les guérir. Ne voudrait-il pas laisser Jésus agir dans sa vie? Alors je lui propose de prier pour lui et il accepte. Et nous prions à la piscine. Et la semaine d'après, il me dit qu'il est guéri. C'est formidable, hein? Mais c'est pas vrai. C'est une histoire inventée. C'est mon imagination. C'est du fake. Je le redis, c'est pas une vraie histoire. La situation est réelle. Cet homme existe. Et il est bien condamné à faire des rééducations tous les jours. Ma compassion pour lui est vraie aussi. Et depuis le mois de juin, je prie pour lui régulièrement. Mais la suite est fausse. C'est mon imagination. Je n'ai pas encore trouvé le courage de lui parler de Jésus. Et plus les semaines passent, et plus je trouve ça difficile. Et pourtant, j'ai envie de le faire. Alors, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette situation? Trois choses. D'abord, c'est mon imagination qui a travaillé. elle a commis des grosses erreurs d'appréciation. Dans mon scénario, cet homme, c'est plus un être humain, c'est un objet, c'est un figurant. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est un vrai être humain dans la vraie vie. Donc il faut lui laisser le temps de réagir, de réfléchir, de comprendre, de poser des questions, de douter, de croire. Ça va prendre du temps. Dans mon scénario, ce n'est pas la foi que je mets en action. Mais c'est juste mon désir personnel de voir des choses magnifiques se passer. Des choses presque magiques. Paf ! Ça ne marche pas comme ça du tout. Dieu n'agit jamais comme ça. La quatrième chose qui me bloque, c'est que mon scénario il m'oriente dans un truc et j'arrive pas à en sortir. Et pendant ce temps-là, j'ai toujours pas ouvert ma bouche. Mon clapet est resté fermé. Mais ma plus grosse erreur dans l'affaire, c'est qu'on ne va pas parler des choses personnelles, voire intimes, comme la foi ou la guérison, en maillot de bain sur le bord de la piscine. Et encore moins avec un inconnu. Alors c'est un peu compliqué. Des fois, on a peur de témoigner à cause des conséquences. Du qu'en dira-t-on, des moqueries. Là, je me suis posé la question de l'enjeu. Quel est l'enjeu pour moi ? Ben, il n'y en a aucun. Je ne suis pas au travail, je ne suis pas dans un lieu risqué, je ne connais pas cette personne, sa réaction n'aura aucune influence sur ma vie, même s'il me rit au nez ou qu'il se moque de moi, la semaine prochaine, je reviens nager. Plusieurs semaines passent. Et je croise toujours cet homme de semaine en semaine. Bon, il va mieux. La rééducation progresse. Bon, la semaine suivante, ça va moins bien. Etc. Un matin, je repensais à la situation, à mon histoire imaginaire que j'ai inventée. Puis je me dis, ça ne va pas. Il faut que je reprenne depuis le début. Comment dois-je m'y prendre ? Et c'est là que j'ai repensé à la stratégie que vous connaissez, hein, de l'évangélisation par l'amitié, que vous connaissez bien. L'idée, elle est toute simple. C'est qu'on ne va pas parler de but en blanc comme ça, notre foi, à n'importe qui. Non, on rencontre des gens, on crée des relations, on développe l'amitié, le relationnel, et puis comme ça, on devient plus proche des personnes. Et une fois qu'on est suffisamment proche, ben c'est à ce moment-là qu'on peut parler des choses plus personnelles et plus intimes. Pas avant. Personne n'est prêt à parler des choses personnelles avec des inconnus. Donc au stade où j'en suis, je dis bonjour, bonsoir à cette personne. Il faut que je passe à un autre niveau avec elle. Sinon, on va rester au niveau du bonjour, bonjour, bonsoir. Comment faire ? Alors, le comique de la situation m'est un petit peu apparu. Parce qu'à la piscine, on est quand même un peu dénudé. Ça serait un autre sport, ça serait plus facile. On ferait de la course, dire, bah, tiens, on pourrait aller courir ensemble une fois, et puis en courant, on discute, on papote, et on lie amitié. Mais à la piscine, c'est pas vraiment pratique de nager ensemble. Je ne vais pas non plus lui proposer d'aller prendre une douche ou de se faire un shampoing après l'entraînement. Ça ne va pas le faire. Alors que faire ? Abandonner ou continuer ? Alors j'ai trouvé une nouvelle idée. Mon idée, c'est de lui proposer d'aller boire un café un jour en ville. Je ne suis pas sûr qu'il accepte. Je n'ai pas du tout l'intention de lui parler de Jésus quand on ira boire ce café. C'est juste pour... voilà, développer l'amitié, le connaître un peu plus, être en confiance. Et puis progressivement, on verra où ça mène. Pour le moment, je ne l'ai pas encore proposé, mais je vais le faire. Voilà. Bref, avec cette nouvelle stratégie, je pense être davantage dans la réalité, dans une approche pragmatique et progressive. Je crois que je suis davantage dans la vraie vie. Là, tout peut arriver. Il peut accepter de venir boire un café. Alors je vous raconte tout ça parce que c'est un cheminement qui me heurte à l'intérieur. Ça m'est pénible. Et peut-être que aussi pour vous c'est pénible d'entendre cette histoire qui n'est pas très réussie. Là, on préfère les histoires qui marchent, les success stories, les trucs, paf, paf, ça marche. Là ça ne marche pas trop. Et quand ça patine, qui sait que ça intéresse ? Alors j'ai trouvé deux personnes que ça pourrait intéresser, Philippe Candeloro et Nelson Montfort. Mais... « Alors quelques-uns se disent peut-être parmi vous que je file du mauvais coton, que je cherche midi à 14h, que je suis à côté de la plaque, qu'il faudrait que j'arrête de couper en quatre les pauvres cheveux qui me restent et enfin passer à l'action. Ben, dans ce cas, j'accepte vos conseils. Si vous en avez, venez me parler à la fin du culte et je suis preneur. À l'inverse, peut-être il y a quelqu'un parmi nous qui se reconnaît un peu dans cette histoire. Toi aussi, tu as le désir de témoigner dans ton entourage et tu n'y arrives pas. C'est trop dur, ou l'occasion n'arrive pas, ou les circonstances sont toujours défavorables. Ou alors, quand l'occasion arrive enfin, pouf, ta langue reste collée à ton palais et tu n'arrives pas à prendre le dessus de la conversation. Donc si c'est ton cas, ça m'intéresse aussi qu'on se voit à la sortie et qu'on puisse partager nos difficultés et se soutenir. Alors ce qui me rassure, c'est que l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, reconnaît des difficultés similaires. Mais oui, il demande aux Colossiens de prier pour lui dans ce domaine. Vous vous rendez compte, Paul, le grand Paul, celui qui a évangélisé tout le bassin méditerranéen, il demande la même chose. Priez pour moi, pour que j'arrive à témoigner. Regardez, c'est dans Colossiens 4, versets 3 à 6. Il demande que Dieu lui donne des occasions de parler de Jésus et que Dieu l'aide à en parler comme il faut. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est écrit. Hein. Et puis après, il encourage les Colossiens à prier eux-mêmes, pour eux-mêmes, afin qu'ils soient capables de se comporter avec sagesse avec les non-croyants. Il leur dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin de répondre à chacun comme il faut. Que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. » Alors je crois que là, Paul nous donne trois armes secrètes dans cette simple phrase. Votre parole, assaisonnée de sel, accompagnée de grâce. Alors votre parole, vous avez remarqué que c'est au singulier. Il ne dit pas que vos paroles. Il ne dit pas que votre flot ininterrompu de paroles qui va saouler la personne en face de vous. Il dit que votre parole. Moi, j'imagine que ça veut dire qu'il faut qu'on soit bref. Il ne faut pas qu'on en mette plein, quoi. Vous rappelez que même une bougie, dans l'obscurité, elle peut éblouir. On n'est pas là pour éblouir les gens. Ils vont avoir mal aux yeux. Votre parole, assaisonnée de sel. Bon, vous savez à quoi sert le sel dans les biscuits apéritifs ou dans les chips? C'est pour quand on en mange un, on en prend un autre. Hein, et puis ça donne soif, on boit un petit peu de rosé. Bon, l'idée là, c'est que ce qu'il faut qu'on raconte, c'est que ça ait bon goût, que ça donne envie. Il vaut mieux une histoire courte et bien salée qui donne envie d'en savoir plus qu'un long discours fade et moralisateur. Alors bien sûr, ça rappelle la déclaration de Jésus, vous êtes le sel de la terre, etc. Hein, du sel dans nos paroles, c'est important. Pas des piques, pas des critiques. Accompagné de grâce. Le mot grâce, c'est peut-être celui que le monde chrétien utilise le plus pour parler de la relation d'un chrétien avec Dieu. On est dans la grâce. Mais ce n'est pas celui qu'on utilise le plus pour parler des non-croyants, qui est plutôt le mot paix, péché, pécheur. Vilain pécheur, comme ça qu'on les non-croyants. Hein. Donc on a un sérieux problème, nous les chrétiens, avec les non-chrétiens. On a toujours tendance à les juger sur place et à leur reprocher leurs péchés. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a fait avec nous? Non, il a pris le parti de faire tout autrement. On sait qu'il a réglé le problème une fois pour toutes. Christ est mort pour nous alors que nous étions ennemis avec Dieu. On n'en avait rien à faire de Dieu. Jésus est en train de mourir pour nous. Ça, c'est Romains 5. Je pourrais aussi citer Jean 3,16, que vous connaissez par cœur, mais je vais plutôt citer 1 Jean 4,9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Et l'amour de Dieu consiste non pas en ce que nous ayons aimé Dieu, mais ce que lui, il nous a aimés et il a envoyé son Fils pour régler définitivement ce qui nous sépare de lui. Nous, les chrétiens, nous oublions vite, nous avons été des non-croyants pécheurs et que c'est par grâce que Dieu a décidé de ne pas tenir compte de notre péché, car c'est Jésus qui s'en est occupé. Bien sûr, il y a la repentance, ça, toutes ces étapes à vivre, mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui allons provoquer ça. Ce n'est pas notre job. Soyons cool avec les non-croyants. Ne les confrontons pas avec leurs péchés. C'est le travail de Dieu, et puis ils le savent bien. mais plutôt accompagnons-les auprès de Jésus. Le trône de Jésus s'appelle le trône de la grâce. Je vais peut-être vous secouer un peu, mais la plupart d'entre nous, on est relativement cool avec notre propre péché. On est dans la grâce. Oh, c'est pas si grave. Un peu d'honnêteté. Et si on était tout aussi cool avec les péchés des non-croyants ? Jésus est venu pour s'en occuper. Ça se passe entre Jésus et eux. Nous, on n'intervient pas. Alors si ce que je vous dis vous dérange, tant pis, ou alors tant mieux. Et ne venez pas me voir à la fin, j'ai déjà rendez-vous avec d'autres personnes. Je vais encore ajouter une couche. Dans Paul, dans 2 Corinthiens 6, il dit « Voici l'œuvre de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a confié le ministère ou le service de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. » Sans tenir compte de leurs fautes, c'est écrit. Et il nous a fait les dépositaires du message de la réconciliation. Ainsi, nous faisons cette fonction, etc. Hein ? Dieu a réconcilié les hommes avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. Alors, je reviens à la grâce donc, qui doit accompagner notre parole brève. Saint Augustin, il définit la grâce de Dieu de cette manière. Saint Augustin, vous rappelez, 4e siècle. La grâce de Dieu, c'est que Dieu me donne ce que je ne mérite pas. Alors qu'est-ce que Dieu me donne et que je ne mérite pas ? Son amour, son amitié, ses conseils, sa protection, sa paix, sa joie, sa proximité, sa présence, les réponses à mes prières, etc. Tout ça, je ne le mérite pas. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi non. Et pourtant, Dieu me le donne. C'est la grâce de Dieu. Saint Augustin, il continue en disant « la miséricorde de Dieu ». La miséricorde de Dieu, c'est que Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Alors je répète, la grâce de Dieu, c'est que Dieu me donne ce que je ne mérite pas, et la miséricorde, c'est qu'il ne me donne pas ce que je mérite. Vous voyez bien ce que je mérite. Bon, ben il ne me le donne pas. Heureusement. Ainsi, avec les non-croyants, soyons pleins de grâce et pleins de miséricorde. Heureux les miséricordieux, dit Jésus en Matthieu 5. Alors donc, les trois armes secrètes de Paul, une parole brève, quelque chose qui donne envie d'y revenir plus tard, le goût du revenez-y, et puis plein de grâce, de faveur, de miséricorde. La grâce, c'est aussi prendre sur soi d'accepter quelqu'un tel qu'il est, même si ça ne nous convient pas. C'est ce que Dieu fait tous les jours avec nous. Il aimerait bien qu'on soit comme lui. Mais on ne l'est pas tout à fait. Nous, nous sommes comme nous. Mais Dieu nous aime avec nos limites, avec nos erreurs, dans sa grâce. Alors faisons pareil avec les non-croyants. Aimons-les comme ils sont, avec leurs limites, leurs erreurs. Alors j'ai bien conscience que pour peut-être certains d'entre vous, ce que je dis n'est pas acceptable. Mais rappelez-vous, Jésus est appelé l'ami des pécheurs. Est-ce que nous ressemblons à Jésus sur ce point ? Est-ce que nous aussi, nous pouvons être l'ami des pécheurs ? Alors ça pose la question suivante, je crois que j'ai encore 2 minutes. Comment Dieu fait avec nous ? Alors je vais raccourcir. Et Dieu nous prend là où nous en sommes pour nous amener là où il est. Et puis Dieu nous prend aussi comme nous sommes pour nous amener comme il est. En tant que disciple de Jésus, il y a 4 étapes marquantes dans notre vie. La première, c'est l'émerveillement. Nous sommes émerveillés par Dieu, par sa grâce, par sa puissance, par sa grandeur, par son amour, par Jésus, par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est toujours émerveillé de Dieu au jour d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on est toujours émerveillé par la puissance de Dieu ? Alors, moi je pense que c'est dans l'évangélisation que la puissance de Dieu va se manifester. Nous, les croyants, on n'a pas besoin de miracles pour croire. Les non-croyants, ils en ont besoin. Des choses étonnantes, des guérisons, des situations qui se renversent. Ça va leur communiquer l'émerveillement de Dieu. La deuxième chose, c'est la confrontation. Avec Jésus comme maître, les disciples, les 12, ont été amenés à affronter tout de la vie. Alors Jésus lui-même, il a affronté la haine d'Hérode dès sa naissance, l'incompréhension de ses parents, de sa mère, l'incompréhension de ses disciples, des pharisiens, des sadducéens, des hommes politiques, des religieux. Et les disciples, ils ont vécu tout ça avec lui. Et Jésus a mené ses disciples à affronter beaucoup de choses. L'incrédulité, la tradition, la tempête, la faim et la soif, le diable, la jalousie, la recherche du pouvoir, la souffrance, le rejet, la moquerie, la violence, même la mort. Et la formation des disciples de Jésus a consisté à se confronter à toutes ces choses. Et nous, aimerions rester confortablement dans le canapé du salon. La vraie joie de Dieu, ce n'est pas 99 chrétiens qui chantent des cantiques le dimanche matin. Non, c'est un non-croyant qui se tourne vers Dieu. Ce n'est pas moi qui l'invente. Hein, je brode un peu les paroles de Jésus. Vous les connaissez. Nous avons besoin d'être confrontés avec les idées qui sont dans le monde. C'est notre formation. Alors ne restons pas en dehors de la formation. Disciple, ça veut dire élève, apprenti. Notre formation se passe sur le terrain du monde, pas dans notre salle de culte. Alors les deux autres points, je vais les passer. Rappelons-nous aussi que Dieu, que Jésus a choisi comme premier chef de l'Église un menteur et un traître. Mais qui ça ? Ben c'était Pierre. C'était un menteur et un traître. Il a trahi Jésus. Dieu a choisi cette personne-là. Et puis après, pour répandre l'Évangile tout au long du bassin méditerranéen, il a pris un meurtrier, un persécuteur de l'Église, l'apôtre Paul. Vous voyez, avec Dieu, personne n'est disqualifié. Au contraire, tout le monde est qualifié par Dieu. Il faut juste être disponible, être là, prendre des risques, faire des essais, des tentatives. La formation se passe sur le terrain du monde, pas entre les murs de la salle de culte. La formation, c'est la confrontation aux idées du monde. L'Évangile est plein de contradictions. Dieu utilise des gens inutilisables, des gens brisés, des gens qui se sentent incapables. C'est moi, c'est toi, c'est nous. Et tous les autres, ils nous attendent dehors. Ils nous attendent pour rentrer avec nous. Je vous remercie.